Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Delbic.
Bonjour, samedi 13 juin, merci d'être au rendez-vous. Ravi de vous retrouver pour notre résumé de 7 jours d'actualité ici et ailleurs. Nous allons notamment revenir sur les conséquences de l'asphyxie de George Floyd aux États-Unis et en France également. Nous serons en compagnie de Valérie Toragnan, la directrice de la vénérable Revue des Deux Mondes, une des grandes revues des idées en France. Et tout à l'heure, nous joindrons Célia Belin, spécialiste des États-Unis. Elle sera avec nous en ligne de Washington. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, www.rfi.fr, sur votre moteur de recherche préféré. Et vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez et même vous y abonner.
RFI.
Et avant d'écouter Valérie Toragnan, commençons notre voyage autour du monde et partons d'abord pour Hong Kong, où il y a un an commençait un mouvement de protestation contre Pékin. Correspondance mardi de Florence de Changy.
Quand il y a un an, 1 million de Hongkongais étaient descendus dans la rue avec des poussettes et des personnes âgées. C'était pour réclamer le retrait de la loi d'extradition vers la Chine. Mais le soir même, la chef de l'exécutif Carrie Lam confirmait son intention de faire passer la loi, affichant son mépris total pour la population. Pour beaucoup, c'est cette attitude, ce jour-là, qui a déclenché la colère qui a ensuite nourri des dizaines de confrontations de plus en plus violentes, des grèves, l'occupation du Parlement, de l'aéroport, de plusieurs universités, face à une police dont les manifestants dénoncent la brutalité. Dennis Kwok est l'un des députés de l'opposition pro-démocratie, dont Pékin réclame la disqualification pour obstruction parlementaire. Il dresse le bilan de cette année historique.
En un an, on a perdu les libertés garanties par le principe « un pays, deux systèmes ». Ce que l'on a gagné, c'est l'union des citoyens hongkongais et l'attention de la communauté internationale.
Les Hongkongais placent désormais leur espoir dans un soutien de la communauté internationale, car un an plus tard, si le projet de loi d'extradition a bel et bien été abandonné, Pékin vient d'annoncer son intention d'imposer une loi de sécurité nationale qui va aller bien plus loin dans la restriction des libertés individuelles et politiques des Hongkongais.
Partons pour Cuba maintenant, à l'occasion du retour au pays des fameux médecins qui sont pour la Havane des ambassadeurs et une source aussi de devises. Ils sont intervenus ces derniers mois contre le coronavirus en Europe, notamment à la Havane, Domiti Piron.
2000 ans à la Havane, après 2 mois à l'hôpital de Crema, 36 médecins et 15 infirmiers rentrent ce lundi avec le sentiment du devoir accompli et les remerciements des autorités italiennes. Des remerciements ainsi qu'un chèque dont on ignore le montant, mais ce coût a été critiqué par des médecins en Italie et en Afrique du Sud, où Cuba a également envoyé une brigade médicale. Au total, 1800 professionnels de santé cubains ont prêté main forte à 27 pays dans la lutte contre le coronavirus. Un geste humanitaire selon le gouvernement, une entrée de devise aussi. Mais selon l'économiste Ricardo Torres, ces missions ne compenseront pas les pertes financières engendrées par la crise à Cuba.
Combien Cuba va recevoir pour l'envoi de ces brigades qui font partie d'un contingent spécial qui agit en cas d'urgence et de catastrophe? Honnêtement, je ne crois pas que ce soit bien rentable. Cela couvrira les dépenses, bien sûr, mais que cela engendre une entrée nette de liquidités pour le pays, je ne crois pas. Après, ce sont des spéculations parce qu'il n'y a aucune information publique à ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que c'est un marketing gratuit et très bénéfique pour l'industrie médicale de l'île.
Le ministre de la Santé cubain précisait la semaine dernière face aux critiques et aux campagnes de discrédit, selon lui, que 61 237 patients dans le monde atteints du coronavirus ont été pris en charge par les médecins et infirmiers cubains.
Et avant de joindre Valérie Toragnan, faisons escale à Paris cette fois, où mardi, une manifestation a eu lieu en hommage à George Floyd, place de la République. Alexis Bedu.
Priscilla et Romuald Facambi se devaient d'être présents pour honorer la mémoire de George Floyd. Le racisme, ils le connaissent, eux, français d'origine béninoise.
Malheureusement, dans ce pays, la stigmatisation arrive toujours là, discrimination à l'embauche, etc. Il y a des lois sont passées, mais dans les faits, qu'est-ce qui a changé? Rien.
On est dans un pays des droits de l'homme, en France. On s'est battu pour ça et aujourd'hui, être ici, c'est aussi participer au changement de demain. Pour nos futurs enfants.
Leur père, aujourd'hui à la retraite, était un policier noir dans le nord de la France. Il leur a raconté le racisme quotidien.
Il était noir, c'était un policier, ça a été difficile pour lui. Il nous a raconté qu'il y avait par exemple des actes de torture, de passage à tabac pour des personnes qui étaient en situation irrégulière. Il a toujours justement lutté contre ces gestes de torture, ces insultes contre ces personnes-là.
Moi je pense qu'il y a du racisme à la police. La police n'est pas raciste. Cette minorité qui est raciste, elle entache la police républicaine. Et il doit y avoir une remise en question eux-mêmes de leur déontologie, leur façon d'agir, etc.
Priscilla et Romuald Fakambi sont satisfaits des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le racisme dans la police. Un bon début, disent-ils, mais ils espèrent bien plus, et notamment l'arrêt total des contrôles aux faciès.
Et nous reparlerons dans un instant des mesures prises par le ministère de l'Intérieur. Bonjour Valérie Thorragnan.
Bonjour.
Vous dirigez la revue des Deux Mondes, vénérable revue dont le contenu demeure une référence. Et le dernier numéro en date vient de sortir. Il met La Fontaine à la une, en quelque sorte. La Fontaine toujours redécouvert, toujours le peintre du genre humain et donc toujours actuel.
Ben, plus que jamais. Et puis les deux mois, trois mois qu'on a vécu en confinement nous ont apporté la preuve que les vaniteux, les arrogants et les imposteurs sont toujours sur le devant de la scène, et que lorsque La Fontaine décrivait la cour du roi Louis XIV, ben, aujourd'hui nous avons affaire à toutes sortes de personnages, y compris les sachants qui ne savent pas grand-chose ni qui se posent là, y compris un pouvoir déboussolé et la question du pouvoir qui reste essentielle toujours chez La Fontaine. Et ça nous a semblé intéressant de nous replonger dans les fables et dans cette langue vertigineuse et éblouissante qui est quand même un des sommets de la langue française, comme l'explique admirablement Fabrice Lucchini avec sa verbe habituelle et son humour. Et puis raconter aussi ce qu'a été La Fontaine et pourquoi il y a quelque chose d'inégalable et qu'il est dans notre héritage inconscient, que ce soit sous la forme de ces fables, de cette langue, de cette façon de critiquer le pouvoir, de mettre en scène dans des récits des personnages sous les traits d'animaux ou pas que. Il y a aussi Paul Constant qui nous parle des filles et des femmes et de ce XVIIe siècle où déjà le statut de la femme commence à évoluer. Donc voilà, une personnalité d'une richesse inouïe et à qui c'était tout à fait le moment de rendre hommage, parce que la société qu'on a vu se déployer devant nous au moment de ce confinement avec tous ses excès et ses outrances, ça nous a fait irrésistiblement penser à ce qu'il écrivait.
Valérie Thorragnan, j'ai voulu vous inviter parce que le rôle des revues en France a toujours été important. Il faut rappeler que la revue des Deux Mondes est née au XIXe siècle, donc c'est pour ça que je parlais de vénérable revue. Vous l'avez rafraîchie, modernisée en quelque sorte, mais le contenu est toujours là. C'est une manière de voir le monde avec distance que vous avez.
Oui, ce qu'on essaye de faire, et ce que j'essaye de faire moi, surtout depuis que j'en ai pris la direction, c'est de remettre la revue avec toute sa pertinence, son exigence en termes d'auteur, de qualité, de travail universitaire et d'auteur, etc., au cœur du débat d'idées, parce que nous sommes dans un moment où, à cause d'une société qui évolue, des réseaux sociaux, etc., finalement la réflexion tourne de plus en plus vite, et nous avons ces autoroutes de l'information pour le meilleur et pour le pire, et c'est important que les revues reprennent une place, c'est-à-dire qu'elles puissent participer à leur manière à cette confrontation d'idées, en proposant à leurs lecteurs et à leurs lectrices un contenu de haute qualité, un recul sur l'information, un recul sur le débat, sur l'analyse, et puis en même temps aussi une vraie conviction que c'est important d'échanger démocratiquement, mais d'échanger sans tabou, sans censure, sur tous les sujets qui agitent notre monde contemporain.
Valérie, nous commençons cette émission avec l'actualité française, fortement marquée par ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une dizaine de jours, deux semaines, la mort de George Floyd. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment aujourd'hui la colère de la police, par exemple?
La colère de la police, c'est encore autre chose, parce que c'est les conséquences des accusations qui ont été portées par beaucoup sur ce qu'est notre police aujourd'hui en France. Je pense qu'il est important de distinguer les choses, de distinguer la France et les États-Unis. On l'a beaucoup dit, mais c'est important qu'il y ait une émotion légitime aux États-Unis, bien sûr, mais dans le monde entier sur les questions de racisme qui ne sont pas réglées. Ça aussi, c'est important de le dire. Après, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et Emmanuel Macron a dit, apparemment dans un conseil des ministres, que le racisme est contraire au principe universel républicain. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dit, un, que le racisme est un problème et qu'il ne faut pas être dans le déni. Deuxièmement, que c'est contraire au principe universel républicain. Ça veut dire que donc, il va falloir le régler en tant que principe universel républicain non réglé et y apporter une réponse universelle et républicaine. Moi, je pense qu'il ne faut pas entraver la réponse que nous devons avoir à ce problème du racisme par des débats idéologiques et des excès identitaristes qui sont contraires d'abord à contraire à la culture et à ce qu'est le principe républicain universel en France, et puis qui sont une manière de, encore une fois, créer des communautés, essentialiser les gens et braquer, et à un moment donné où on a au contraire beaucoup besoin d'empathie et de solidarité, et ça la crise du coronavirus l'a prouvé. Donc aujourd'hui, la police, elle est mise en accusation. Il faut faire très attention à ne pas faire de ça une accusation systémique. En revanche, il faut faire la justice, et toute la justice, et pleinement la justice, sur ce qui se passe et quand il y a des choses à régler. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage en ce moment. L'exécutif doit avoir du courage. Et en même temps, ne pas rentrer dans un système où on devrait a priori juger, essentialiser toute la police, essentialiser toute la population française ou toute la population européenne blanche. Enfin, vous voyez, je me méfie énormément de tous ces discours simplificateurs. S'il y a un vrai problème, et il y a un problème de racisme qui demeure, parce qu'il demeure dans la police, il demeure aussi dans d'autres secteurs, eh bien, il faut l'affronter. C'est un problème. Le racisme, ce n'est pas un problème de blancs et d'Europe et d'Occident. C'est un problème grave qui touche tout le monde. Donc voilà, donnons-nous les moyens d'avoir une réponse républicaine et démocratique. Et s'il le faut, faire évoluer les pratiques dans la police. Mais je pense que là où notre ministre de l'Intérieur a eu tort, c'est qu'il ne faut pas précipiter les décisions, il faut les faire aussi en concertation et en discutant.
Alors revenons, Valérie Torragnon, sur quelques événements en France, marqués essentiellement par cette affaire, par ce racisme, par ce débat autour du racisme dans la police. Et d'abord avec un tout autre sujet, qui l'eût cru il y a quelques semaines, une surproduction de masques de textile, c'est ce qui se passe en France en ce moment, Ariane Gaffury.
En mars, l'exécutif avait encouragé les industriels dont l'activité était à l'arrêt à fabriquer des masques en tissu pour pallier la pénurie criante. Un système D en attendant l'approvisionnement de masques chirurgicaux made in China. 370 entreprises françaises se sont mises au travail et ont même investi pour confectionner 25 millions de masques par jour. Un groupe baptisé Savoir-faire Ensemble a été créé pour mettre en relation producteurs et acheteurs. Mais paradoxalement, aujourd'hui, plus d'une entreprise sur 10 se retrouve avec son stock sur les bras. Entre-temps, la France s'est réapprovisionnée en masques et 40 millions de masques français en tissu n'ont pas été vendus. Bercy veut donc encourager les entreprises ainsi que les consommateurs à acheter ces masques. Il a donc demandé à l'Union des industries textiles et à l'entreprise Le Slip français de contacter les acteurs économiques, tous secteurs confondus, en France et à l'étranger, et les convaincre d'acheter français. L'objectif est d'écouler les masques invendus, mais aussi de consolider les stocks publics en cas d'une deuxième vague ou d'une autre crise sanitaire.
C'est sans doute le fait de la semaine, donc. Nous en parlions à l'instant avec Valérie Torragnon sur fond de manifestations contre les violences policières aux États-Unis et en France, des décisions du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, Marie Casadebé.
Christophe Castaner a listé des mesures concrètes. La suspension automatique en cas de soupçon d'actes ou de propos racistes. Des formations annuelles pour les agents pour une plus grande sensibilisation à la question des discriminations. Ou le rappel strict des conditions d'usage du contrôle d'identité, souvent considéré comme discriminant. Aucun service ne pourra désormais inclure le nombre de ces contrôles dans l'évaluation de son activité. Christophe Castaner a également annoncé l'abandon de la technique d'interpellation par étranglement. Rappelant que les polices américaines et françaises ne pouvaient être comparées, il a pourtant reconnu que cette méthode était trop dangereuse pour continuer à être utilisée. En France, elle est soupçonnée d'avoir provoqué la mort en janvier dernier d'un livreur de 42 ans. Sur toutes ces questions de racisme et d'usage excessif de la force, le ministre promet aussi plus de transparence et d'indépendance. Il compte réformer les institutions chargées d'inspecter policiers et gendarmes, le tout en concertation avec les organisations professionnelles qu'il entend rencontrer au plus vite.
Christophe Castaner, qui a reçu effectivement les syndicats ces deux derniers jours, il est revenu d'ailleurs sur certaines mesures, notamment la mesure d'étranglement, ce qui n'a pas atténué la colère des policiers. À noter aussi dans l'actualité française cette semaine, l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire sur une série de plaintes contre le gouvernement et l'administration dans la gestion de la crise du coronavirus. Et c'est un sujet qui va particulièrement vous intéresser maintenant, Valérie Torragnon. la remise en question du film sans doute le plus célèbre du cinéma américain, en tout cas le plus vu, Autant en emporte le vent, tiré du roman de Margaret Mitchell, critiqué car sous-estimant, disent ses opposants, les ravages de l'esclavage et de la ségrégation dans le Sud. Sophie Torlotin a rencontré une traductrice de ce roman de l'anglais au français.
Comment retraduire un monument de la littérature américaine, prix Pulitzer de la fiction en 1937, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde? Josette Chiche-Portiche s'est détachée de la traduction française établie en 1939 et son texte est beaucoup plus fidèle au roman d'origine.
Ne serait-ce que la première phrase. Ça commence par « Scarlett O'Hara was not beautiful ». Lui, il avait traduit « Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique ». Et moi, j'ai traduit « Scarlett O'Hara n'était pas belle ».
En 1939, le premier traducteur avait choisi de faire parler les esclaves d'une manière très particulière. Il qualifiait d'ailleurs ce langage, en revendiquant son emploi, de « petit nègre ». Pour Josette Chiche-Portiche, ce choix est très lié à l'époque, non au texte d'origine.
À l'époque, c'était Yabon Banania. C'était l'époque des colonies. Donc il a dû dire à Margaret Mitchell, voilà… Moi, j'ai reproduit le petit nègre parce que c'est comme ça qu'on fait parler les Noirs dans la littérature française.
Et Josette Chiche-Portiche a choisi une autre option.
Je me suis un peu inspirée de la façon dont Maupassant faisait parler les paysans. Et j'ai essayé d'avoir une langue assez musicale, chantante.
En français, le texte de Margaret Mitchell existe désormais en deux versions, la VF d'origine chez Gallimard et la nouvelle traduction chez Gallmeister.
Alors ça, c'est un sujet fait pour vous, en quelque sorte, Valérie Toragnan, vous qui êtes directrice de la revue des Deux Mondes. Que pensez-vous de cette décision de retirer provisoirement du catalogue de HBO ce film, en attendant d'y ajouter une petite notice explicative, comme si chacun d'entre nous n'étions pas capables de retracer le contexte dans lequel est sorti ce film?
Ben voilà, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que bon, sur le principe, se dire une notice explicative, on voit bien, et c'est un peu ça que je trouve malheureux, c'est que les producteurs, les sociétés de production réagissent par rapport à une pression et une émotion à un moment donné. Je pense que ces ouvrages, ces chefs-d'œuvre, ces films, ces livres, mais on pourrait aussi parler d'autres choses, hein, on pourrait aussi parler des statues qui ont été érigées, c'est une autre question, mais ça la rejoint un petit peu, ils font partie de notre patrimoine, et ce qui est très dangereux, c'est de les regarder et de les juger à l'aune des valeurs et de ce que nous défendons et de ce que nous savons aujourd'hui. Et là, c'est un peu ce qui est fait. Et cette impression qu'il y a, parce que dans le cas présent, bon, une plateforme HBO va retirer provisoirement, certes, c'est pas, on pourrait dire, après tout, c'est pas une catastrophe, mais on peut continuer à acheter ce film en DVD, le voir, on peut lire surtout, et j'y incite tous les auditeurs et les auditrices, lire surtout le roman de Margaret Mitchell, parce qu'il complexifie extraordinairement ce qu'est le propos du film, hein. Le film est une merveille, mais le livre est encore plus intéressant. Et comme elle disait elle-même, je ne raconte pas l'histoire, je raconte cette histoire-ci de famille, de planteurs en Géorgie à cette époque-là, du point de vue de ces familles-là. Donc oui, on est chacun à même de faire ces corrections. Et puis surtout, plutôt que de censurer, de retirer, retournons-nous aussi vers l'éducation, vers l'enseignement de l'histoire. Et ça, c'est vraiment la tâche des professeurs d'histoire. De pouvoir enseigner ce qu'est cette question de l'esclavage, cette question de la colonisation, et de l'enseigner dans un cadre, en restituant justement les progrès qui ont été faits à travers les siècles, le fait que beaucoup de blancs, entre guillemets, se sont opposés et se sont battus pour des valeurs humanistes, pour des valeurs progressistes à ces crimes. Donc voilà, je pense que le rôle de l'éducation est important. Et je préfère ça à cette vision où il faudrait tout d'un coup faire disparaître des visages, des films, des livres. Vous savez, c'est le 1984 de George Orwell, c'est ça, hein, c'est qu'il faut à un moment donné réécrire complètement dans une autre langue, censurer les écrits, etc., qui ne sont pas conformes, pour l'avènement d'une société totalement renouvelée, neuve, et qui serait détachée de son passé. Or, on ne peut pas faire sans son passé, on peut avoir un regard critique sur son passé, on n'est pas responsable des fautes ou de ce qui s'est passé avant, de la façon dont les Français ou d'autres ont agi de par le passé. En revanche, nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous faisons et la manière dont nous luttons contre les discriminations. Je pense que ça, c'est la bonne façon d'aborder les choses, puisque l'obsession de la censure et de la disparition des œuvres qui me fait très peur.
Alors il y a aussi, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué brièvement, la remise en question des statues, en quelque sorte, à Oxford, celle de Cecil Rhodes, un homme d'affaires, un colon anglais qui a mis la main sur l'extraction d'or dans l'actuelle Afrique du Sud au 19e, ou la statue d'un marchand d'esclaves à Bristol, ou celle même barbouillée de Léopold II à Bruxelles. Et j'ai suivi ces événements en lisant l'interview passionnante de Mona Ouzouf dans votre revue « Comment on écrit l'histoire ?». C'est la différence entre l'histoire et la mémoire. Valérie Toragnan, en quelques secondes.
Exactement. Et l'histoire n'est pas elle-même exempte de subjectivité, on le sait tous. Et la mémoire fait un travail différent, j'allais dire, socialement et psychologiquement que celui de l'histoire. Donc il faut faire très attention de ne pas verser à chaque fois dans les excès. Nous avons besoin d'une histoire qui raconte, nous avons besoin d'un retour sur notre histoire, et nous avons besoin aussi de bien séparer ce qui est de l'ordre de la mémoire, et la mémoire est respectable, mais la mémoire ne peut pas, l'exigence de mémoire ou le devoir de mémoire ne peut pas à un moment donné se substituer au récit historique, et chacun doit trouver sa place. Donc c'est un débat qui n'est pas récent, hein, c'est un débat qui anime la société des historiens et qui a donné lieu à beaucoup de polémiques ces 30-40 dernières années, et même plus, mais voilà, que notre histoire, ce qu'on fait du récit de notre histoire, et l'importance que ça a aussi pour la construction de notre réflexion sur le temps passé, et notre sensibilité, notre regard critique sur notre histoire actuelle, l'histoire du passé en fait partie et on ne peut pas supprimer. Vous voyez, si on veut supprimer Colbert, on supprime quoi? Alors on va supprimer celui qui est en. L'homme qui est accusé, bien sûr, d'avoir été esclavagiste, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de Louis XIV? Qu'est-ce qu'on fait des rues Robespierre? Est-ce que en France, il y a des rues Robespierre, des rues Stalingrad, des rues Marx? Qu'est-ce qu'on fait de tous les héritages de tout le monde? Vous voyez, est-ce qu'il faut tout supprimer, réécrire le monde? Ou est-ce qu'il faut au contraire apprendre, avoir un regard critique et éduquer et enseigner? Moi, je pense que la culture, c'est ce qui est le plus important et c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui en termes de transmission.
Merci Valérie Toragnan. Il faut lire la revue de Deux Mondes, dont le dernier numéro en date, juillet-août, s'intéresse en particulier donc à La Fontaine, mais pas seulement. Il y a bon nombre de critiques de livres et de films d'ailleurs, des articles sur la littérature avec notre cher Romain Gary ou Stéphane Zweig, ou le grand Jean-Patrick Manchette, également dans la catégorie roman policier, mais pas seulement, roman de société. Et j'attire aussi l'attention des auditeurs sur un article d'Aurélie et Julia sur l'éditeur sulfureux de Baudelaire, Auguste Poulet-Malassis, dans un grand dossier intitulé « Sexe, censure et société ». Merci Valérie Toragnan.
Absolument. Merci à vous, merci beaucoup.
Sept jours en Afrique.
Suite d'une semaine d'actualité, avant de partir pour les États-Unis, arrêtons-nous effectivement en Afrique et revenons maintenant sur la mort du président burundais Pierre Nkurunziza, lundi, Sonia Rollet.
Dans quelques semaines, le 20 août prochain, le président Nkurunziza devait devenir le guide suprême du patriotisme. C'était plus qu'un titre honorifique. Au sein de son parti, comme dans les milieux diplomatiques, on pensait que son successeur, le général Évariste Ndayishimiye, peinerait encore pendant de longs mois à imposer une nouvelle ligne à son parti comme au pays. Pourtant, Pierre Nkurunziza était un simple professeur d'éducation physique. Quand il prend la tête d'un CNDD-FDD déjà en crise en 2001, il est considéré comme le plus petit dénominateur commun entre des généraux beaucoup plus puissants que lui et qui forment aujourd'hui encore une junte. Élu président de la République en 2005, Pierre Nkurunziza va peu à peu s'imposer. Il disait volontiers avoir été choisi par Dieu pour gouverner le Burundi et entraînera tous les responsables des institutions et partis politiques dans d'interminables grandes messes religieuses appelées croisades. Le Burundi, sorti d'une guerre civile, connaît quelques progrès sur le plan politique et économique sous son premier mandat, mais dès 2010, la répression s'intensifie avec le retour du rival de toujours, Agathon Rwasa, chef de l'autre rébellion Hutu. Cette répression atteint son paroxysme en 2015, alors que Pierre Nkurunziza s'impose une fois de plus à la présidence, mais il promet que c'est son dernier mandat et tient parole en ne se représentant pas en 2020.
Partons pour le Sénégal avec l'ouverture du procès de Lamine Diack. Lundi, Martin Guez nous a parlé de cet homme controversé pour le moins entre sport et politique et aujourd'hui donc sur le banc des accusés.
Du dopage, de la corruption et en toile de fond des liens étroits avec la Russie. L'histoire de Lamine Diack s'inscrit dans le récit du sport moderne à la manière de celle de Sepp Blatter, son alter ego dans le football. Les deux hommes ont quasiment le même âge et sont accusés des mêmes maux à la tête de leur fédération, avoir instauré un système de corruption généralisée à la FIFA ou à l'I2AF. Lamine Diack a gravi tous les échelons, il a commencé comme sportif, champion de France du saut en longueur avant l'indépendance du Sénégal, puis il passe par la direction de l'équipe de football sénégalaise et du comité olympique du pays en 1985, et mène en parallèle une carrière politique nationale comme maire de Dakar et secrétaire d'État au sport. Mais l'ancien sauteur insatiable voit plus loin que le Sénégal, d'abord vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Il en prend la tête en 1999 pour ne plus la lâcher jusqu'en 2015. 16 ans de règne marqués par la corruption et le népotisme. Avec son fils Papa Massata, installé comme consultant marketing à la Fédération, ils permettent à une vingtaine d'athlètes russes dopés de continuer à participer aux compétitions en échange de pots de vin. Des fonds russes qui auraient d'ailleurs permis en partie de financer la campagne électorale de l'actuel président sénégalais Macky Sall. Autre parallèle avec Sepp Blatter, les liens de Diack avec le Qatar et l'attribution contestée des derniers mondiaux d'athlétisme en 2019 à Doha.
Et allons maintenant en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, après l'attaque terroriste du poste de Kafolo jeudi. Reportage de notre correspondant Pierre Pinto.
Docteur, occupez-vous de lui, il est en état de choc encore.
Ce jeudi après-midi, les 6 blessés sont rapatriés à Abidjan par un vol militaire. 3 sont sur des civières, 3 autres peuvent marcher. Ils figurent parmi les rescapés de l'attaque très meurtrière de leur poste dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 3h du matin, une quarantaine d'hommes en armes surprennent la trentaine de gendarmes et de militaires ivoiriens stationnés là. Les combats durent plus de 2 heures. Selon l'état-major, des renforts ont été dépêchés sur place jeudi matin et une opération de ratissage a immédiatement été lancée pour tenter de retrouver les assaillants. En mai, les armées ivoiriennes et burkinabées avaient lancé une opération anti-djihadiste conjointe baptisée Komoué. Il y a 15 jours, elles ont déclaré avoir détruit une base djihadiste, tué 8 combattants et capturé une quarantaine. L'attaque de ce jeudi pourrait donc être les représailles de ces djihadistes à l'opération conjointe de la fin mai. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et Premier ministre ivoirien par intérim.
C'est une attaque terroriste, hein. Nous sommes en train de faire des enquêtes et les services d'investigation pourront préciser l'origine de cette attaque.
Est-ce que le mode opératoire vous laisse penser que cette attaque a un lien avec l'opération Komoué ?
Mais écoutez, il n'y a pas de cause particulière, il n'y a pas 1000 causes à un attentat terroriste. C'est semer la terreur, c'est détruire des vies, c'est désorganiser les États, représailles ou pas. La seule réponse des États, c'est de faire face.
Quoi qu'il en soit, l'attaque de ce jeudi est la plus meurtrière qu'ait connue la Côte d'Ivoire depuis celle contre la station balnéaire de Grand Bassam qui avait fait 22 morts en 2016.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire. Écrivez-nous également à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Et je salue aujourd'hui Mahamadou Madiou à Maroua. Je salue Latifou à Parakou au Bénin, Barry à Conakry, Daouda à Bamako. Bonjour également à Fayol à Kinshasa, à Galosso qui se demande quand les États-Unis auront un président qui considérera son pays dans sa diversité, fin de citation. Bonjour à Roger et à Fleury à Kisangani en République démocratique du Congo. Enfin un salut à Prosper qui nous écoute fidèlement à Lomé au Togo.
RFI.
Suite d'une semaine d'actualité, nous allons maintenant prendre la route des États-Unis. Bonjour Célia Belin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne de Washington. Le 28 mars dernier, pour être précis, nous avions parlé ensemble, ici même, dans cette émission, du contexte politique aux États-Unis, alors en phase de confinement. Nous avions aussi analysé la situation de Joe Biden, dont nous allons d'ailleurs reparler. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse à la Brookings Institution, auteur du livre « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump », publié chez Fayard avec la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez publié lundi dans Le Monde un article dont nous allons reparler, dans lequel vous nous dites que les États-Unis sont entrés dans une connaissent un vent de progressisme. Nous allons en reparler. Quelle est l'ambiance, Célia, à Washington cette semaine?
Alors la deuxième semaine de manifestation après la mort de George Floyd a vraiment été marquée par de grands mouvements qui se sont amplifiés et apaisés. On n'a plus vu ce qu'on a vu dans la première semaine, qui était des violences, des pillages en marge des manifestations. Mais là, on a véritablement, on a vraiment eu sur le week-end des centaines de gens dans la rue, des milliers de gens dans la rue. Aux manifestations de Washington samedi dernier, c'était une foule très jeune, mais aussi très diverse. issus de toute communauté qui étaient venus manifester. La façon de manifester aux États-Unis est un peu différente en France. Les gens se rassemblent, sont ensemble, ont des pancartes, mais ne marchent pas forcément. Ils sont plutôt statiques devant la Maison-Blanche ou ils ont installé devant les grilles qui font face à la Maison-Blanche que le président Donald Trump a fait installer. Ils ont mis des pancartes, des mots, et l'ambiance est à la manifestation pacifiste et en même temps à des demandes très claires, attendues du Congrès, du président, plus généralement de la classe politique, pour des efforts sur les questions de justice et de police aux États-Unis.
Alors vous qui avez le recul de l'historienne Célia Belin, quelle est la caractéristique, la particularité, s'il y en a une, de ce mouvement selon vous ?
Alors je ne suis pas historienne mais politologue et à ce titre je ne fais que répéter ce que j'entends de mes amis historiens sur les différences fondamentales qu'il y aurait entre ce mouvement des années 2020 et le mouvement, la première vague du mouvement pour les droits civiques des années 60. C'est ça la comparaison qu'on entend beaucoup parce que dans les années 60, les Noirs américains manifestaient en grande partie seuls, c'est-à-dire que c'était une communauté qui était très largement opprimée, qui luttait contre la ségrégation raciale, mais qui n'avait pas forcément l'appui d'une majorité de la population américaine, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut voir que les trois quarts des Américains disent comprendre qu'il y a derrière le meurtre de George Floyd une problématique raciale plus large, que ce n'est pas un événement isolé, et plus de 65% des Américains se déclarent en faveur des manifestations. On a donc véritablement un changement, puisque là, c'est une demande générale, en fait, pour une transformation des questions de police et de justice vis-à-vis de la communauté noire américaine, et plus largement, des problématiques de violence dans la police, qui sont aussi évoquées à cette occasion, et qui vient de l'ensemble de la population. Donc on voit bien que ces idées ont été intégrées par d'abord la gauche américaine et puis plus largement par la société américaine dans son ensemble. C'est l'écrivain noir américain Ta-Nehisi Coates que j'entendais récemment qui disait que cette impression qu'ont les Noirs américains de ne plus être seuls comme ils étaient seuls dans les années 60, qui vraiment fait que ce mouvement est porteur d'espoir.
Alors c'est un mouvement qui est assez large, vous l'avez dit à l'instant, Célia Belin, et il y a les objectifs, c'est ce que vous soulignez dans le papier du Monde du début de la semaine, les objectifs très très particuliers, très notables de Black Lives Matter, qui est un mouvement qui s'est imposé depuis 2014, il me semble.
Oui, Black Lives Matter, au départ, a commencé avec un hashtag sur Twitter. Donc c'était vraiment un slogan, en réalité, qui a fait suite à un meurtre qui a choqué l'Amérique en 2012, celui de Trayvon Martin, qui a été abattu dans la rue. Et puis ensuite, à l'été 2014, autour de Eric Garner et Michael Brown, deux hommes noirs qui ont été tués par les forces de l'ordre, on a vraiment eu une structuration du mouvement qui, en particulier, s'est organisée pendant les émeutes de la ville de Ferguson, dans le Missouri, qui avait duré 3 semaines, et qui ont fait émerger cette problématique de la militarisation de la police, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, dans les polices municipales autour des États-Unis, des équipements de police qui viennent directement, d'ailleurs, du Pentagone, qui sont souvent des rachats d'anciens outils militaires qu'on n'utilise plus, et des forces de l'ordre qui sont entraînées comme à la guérilla urbaine. Et donc, du coup, qui utilisent un niveau de violence qui est sans correspondance avec les besoins effectifs du maintien de l'ordre, et surtout avec un biais raciste. Et donc, les premières victimes de ces problématiques-là sont avant tout les Noirs américains. Et Black Lives Matter a parlé de cette problématique au fur et à mesure des histoires et des scandales. Et il faut bien voir, évidemment, que toutes ces histoires peuvent être racontées grâce souvent à des vidéos amateurs de gens qui ont leur smartphone et donc qui font émerger et ressortir ces meurtres et qui, de plus en plus, ont choqué l'opinion publique. Et progressivement, Black Lives Matter, tant en tant qu'organisation, mais surtout en tant que concept philosophique, des vies noires comptent, a imprégné l'Amérique et s'est développé dans la conscience de l'Amérique, en particulier de l'Amérique démocrate. Et puis aujourd'hui, au moment où on a l'Amérique de Trump qui est revancharde, qui ne concède rien face à des meurtres comme celui qu'on a pu voir, le meurtre de George Floyd. On a vraiment ce cri de ralliement Black Lives Matter qui revient très fort et que dont la jeunesse progressiste s'est saisie.
Alors Célia Belin, partons pour Houston avec cette semaine la cérémonie de funérailles de George Floyd. Reportage de Thomas Arms.
La chorale chante, la foule crie, on se lève, on se prend dans les bras, on pleure, on rigole et on applaudit. Dans la foule, la famille, mais aussi des amis du quartier Third Ward où George Floyd a grandi. Et à l'image de ce quartier, la foule dans l'église est principalement composée de Noirs américains comme Harry Close.
On ne peut plus garder le silence. Quelle que soit la communauté où vous vivez, il faut se réveiller, travailler ensemble.
Mais il y a également quelques blancs dans la foule, comme Rebecca Harris.
Je suis ici parce que je suis une amie de la famille. Je pense que j'ai vraiment de la chance d'être là et de faire partie de l'histoire.
Sur scène se succèdent les chanteuses, les prêcheurs, les orateurs et les frères de George Floyd. Et beaucoup d'émotion et de rage quand sa jeune nièce s'écrie.
Plus de crimes de haine, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit « rendons sa grandeur à l'Amérique ». Mais est-ce que l'Amérique a déjà été grande ?
Tout comme le révérend et défenseur des droits civiques Al Sharpton harangue la foule. Il y aura la justice pour George Floyd, l'histoire ne peut s'arrêter comme ça. Et alors que l'on t'enterre aujourd'hui, le mouvement ne peut pas mourir jusqu'à ce qu'on ait obtenu justice. Va, repose-toi maintenant, va rejoindre maman maintenant. On va se battre.
Allons maintenant à Minneapolis, dans la supérette où l'implacable destin de George Floyd a frappé. Reportage cette fois d'Éric Desalves.
C'est la supérette où tout a commencé. Le 25 mai, un de ses vendeurs appelle la police et accuse George Floyd d'avoir payé ses cigarettes avec un faux billet de $20, provoquant l'intervention meurtrière. Deux semaines plus tard, Cub Foods rouvre ses portes devant un trottoir transformé en sanctuaire. Ses murs sont tapissés de fresques, de fleurs, de messages en hommage à George Floyd et Cub Foods doit faire face à la rancœur des habitants comme Harold et Ducci, deux retraités afro-américains assis sur le trottoir d'en face qui accusent le magasin d'avoir provoqué le drame.
Ils n'auront pas mon argent.
Ils n'auront pas le mien non plus parce que c'est eux qui ont appelé la police.
Ils savaient bien comment la police nous traite. Ça n'a rien de nouveau pour nous. Ce n'était pas une surprise. La surprise, c'était plutôt que cette fois, c'était filmé.
Les coupables, c'est les flics. Mais ce sont les responsables de ce magasin qui les ont mis en position de tuer cet homme. C'est eux qui les ont appelés.
C'est un immigré palestinien qui a fondé ce petit commerce dans ce quartier noir il y a 30 ans. Son fils, qui le gère aujourd'hui, n'était pas disponible pour répondre aux questions des RFI, mais sur les réseaux sociaux, il ne cesse d'exprimer ses remords et sa tristesse pour George Floyd. Il promet aussi de ne plus appeler la police en cas d'incident, en tout cas tant qu'elle n'arrêtera pas, dit-il, de tuer des innocents.
Un vent de progressisme souffle aux États-Unis, écriviez-vous dans Le Monde au début de la semaine, Célia Belin. Va-t-il favoriser Joe Biden, en tout cas le candidat démocrate officiellement investi, et Donald Trump défendre deux positions très différentes à Washington, Anne Corpé?
Ce sont deux approches diamétralement opposées. D'un côté, le candidat démocrate, empathique, a passé plus d'une heure avec la famille de George Floyd à Houston. Joe Biden les a écoutés et a entendu leur peine, a fait savoir l'avocat de la famille. De l'autre, le président qui se pose en garant du maintien de la loi et de l'ordre. À la veille des funérailles de George Floyd, il a organisé une rencontre avec des responsables de la police à la Maison-Blanche. Donald Trump.
Il n'y aura pas de démantèlement de notre police. Notre police nous a permis de vivre en paix et nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de mauvais acteurs là-dedans. Et parfois, nous verrons des choses horribles comme celles dont nous avons été témoins récemment. Mais je dis 99,9 ou au moins 99% d'entre eux sont des gens formidables et ils ont fait un travail qui bat des records.
Joe Biden a fait savoir qu'il était opposé au démantèlement des forces de l'ordre ou à la baisse de leur budget. Les démocrates souhaitent en revanche encadrer les pratiques de la police. Ils ont présenté un projet de loi en ce sens ce lundi qui devrait être rapidement adopté par la Chambre, mais on ignore ce qu'il adviendra du texte au Sénat, dominé par les Républicains.
Nous sommes toujours en compagnie de Célia Belin, qui est en ligne de Washington, qui a écrit « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump ». Alors, parlons politique, Célia, c'est votre spécialité, votre domaine de recherche. Il semblerait que Donald Trump soit en chute dans les sondages. Est-ce que cette fois, il est véritablement en danger politiquement ?
Alors, il faut juste être prudent parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle et donc évidemment, faire des prédictions aujourd'hui n'a pas de sens. Il faut se souvenir que il y a seulement 4 mois, c'était l'impeachment de Donald Trump, le moment où il a été mis en accusation par la Chambre et ensuite acquitté par le Sénat américain. Et on avait un peu le sentiment, donc fin janvier, que Donald Trump était invincible, que les Républicains le soutiendraient toujours et qu'à ce titre, il allait vers sa réélection. Et puis, entre-temps, il s'est passé énormément de choses. La crise du coronavirus, la crise économique qui a suivi, et puis là, les manifestations, les émeutes autour de la mort de George Floyd. Et on voit bien qu'il est vraiment ébranlé dans sa position précédente. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses. On ne va pas maintenant faire de prédictions. Je pense simplement qu'on a connu, pour la première fois de la présidence Donald Trump, un tournant. Un tournant parce que ce sentiment qu'on avait que rien ne pouvait atteindre Donald Trump, vous savez, on l'a appelé le président Teflon, puisque rien ne s'attache à Donald Trump, tout lui glisse sur la peau. Ça a moins bien marché en temps de coronavirus. Je pense que ça précède même manifestations parce que devant la gravité de l'enjeu, on a quand même déjà 115 000 morts aux États-Unis et puis 40 millions de chômeurs. Même si ça repart un peu, l'économie repart un peu, on a bien vu qu'il y avait une forme d'irresponsabilité chez Donald Trump et d'incompétence, qu'il était mal entouré et qu'il a pris à la légère beaucoup de ces crises. Et donc, ça a révélé certains aspects de sa présidence qui n'étaient pas à la hauteur. Et pendant ce temps-là, Joe Biden lui-même était dans son sous-sol protégé du coronavirus, donc n'avait pas l'occasion de faire de la politique. Or, les manifestations l'ont remis sur la sellette, ont continué de démontrer que Donald Trump n'est pas en phase avec la société américaine et donc ont réhabilité Joe Biden. Donc oui, je pense que là, on a véritablement un tournant où Joe Biden est extrêmement compétitif. Et si le mouvement parvient à continuer, qu'il n'y a pas de rupture majeure dans l'image qui est intégrée maintenant des Américains d'un Joe Biden qui n'est peut-être pas le plus dynamique, n'est peut-être pas le plus progressiste, mais qui serait un président de restauration, comme il le dit, restauration de l'âme de l'Amérique, alors il a quand même de grandes chances de l'emporter, à mon avis, en novembre prochain.
Alors, en mars dernier, quand nous avions fait la première mission ensemble, Célia Meulien, nous avions parlé des différents candidats démocrates, du processus de sélection. Maintenant, ça y est, Joe Biden est officiellement investi, et il me semble, côté démocrate, vous dites qu'il a fini par rassembler l'ensemble de celles et ceux qui votent démocrates.
La grande différence avec 2016, où on avait vu s'opposer les démocrates progressistes, la jeune garde derrière Bernie Sanders et le gros du parti plus centriste et surtout plus orienté vers l'establishment qui était rassemblé autour d'Hillary Clinton, c'est qu'il y avait véritablement une animosité entre ces deux camps. Et de l'autre côté, on ne connaissait pas vraiment l'enjeu. Donald Trump faisait peur, mais on ne savait pas ce que ça pourrait donner une fois aux affaires. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a véritablement Donald Trump qui a dirigé le pays et qui est considéré pour l'Amérique démocrate comme le pire président de l'histoire américaine, auquel il faut faire barrage absolument, et il faut absolument juste reprendre le pouvoir. Les primaires ont été à la fois très excitantes et puis à la fin assez décevantes pour le camp progressiste, puisque finalement c'est le candidat de l'establishment qui gagne. Mais il n'y a pas de désunion, il y a quand même une volonté de battre Donald Trump qui surpasse toutes les autres problématiques. Et Joe Biden, ça, l'a bien compris, c'est-à-dire qu'il a donné des gages. Il a intégré, par exemple, de nombreux soutiens de Bernie Sanders dans ses différents groupes de travail pour préparer sa plateforme politique. Il a promis de prendre une vice-présidente comme colistière, et on peut imaginer qu'il prendra soit une femme de couleur qui représente les dernières manifestations, soit quelqu'un de la vague progressiste également. Donc, il va s'inspirer et s'appuyer très fort sur cette gauche de la gauche tout en représentant le centre et donc en étant capable d'aller chercher les indépendants. Donc la grande différence, c'est que cette année, le camp démocrate est uni. Il n'a pas le candidat le plus excitant de très loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller voter pour Joe Biden au mois de novembre, mais il y a un véritable mouvement pour aller voter contre Donald Trump qui aujourd'hui a toute l'énergie et est rassemblé dans cet objectif-là.
Mais est-ce que le camp, les électeurs de Donald Trump, Célia Bellin, ne vont pas, pour partie d'entre eux, quitter ce président avec tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la crise du coronavirus, les victimes, la crise économique, etc. Est-ce que les plus modérés de l'électorat de Donald Trump ne vont pas le lâcher, en quelque sorte?
Alors, ce qu'on voit très clairement, c'est que Donald Trump a une base de soutien d'environ 40%, qui diminue là aujourd'hui à 38% de l'électorat, qui lui est absolument dédié et sur laquelle il peut absolument compter. Je pense que ça peut s'éroder jusqu'à 35%, peut-être 32% si vraiment il continue de démériter, mais il y a une partie de l'électorat qui lui est complètement dévouée et sur laquelle il pourra compter jusqu'au dernier point, puisque voter pour lui est un vote symbolique, est un vote d'ailleurs qui est très souvent lié à un sentiment anti-gouvernement fédéral, c'est-à-dire que si Donald Trump ne fait rien, c'est tout à fait normal, puisque Washington ne doit rien faire, le pouvoir doit être dévolu aux États, et c'est vraiment les États qui doivent diriger, c'est une philosophie politique différente pour ces gens-là, et puis c'est une adhésion à Donald Trump en tant qu'image, le leader nationaliste, populiste dont ils veulent. La problématique de Donald Trump, c'est qu'il est en train de perdre tous les autres, c'est-à-dire les indépendants, les modérés, les républicains qui l'avaient rejoint par pragmatisme, parce qu'il a fait des baisses d'impôts, parce qu'il soutient le Pentagone, parce qu'il fait des choses en fait de républicains. Et tous ces gens-là qui l'ont soutenu jusqu'à très très récemment et qui là commencent à flancher et commencent à hésiter parce qu'ils se rendent compte que pour la première fois, face à une crise dont Donald Trump n'a pas hérité et dont qu'il n'a pas autogénéré, c'est-à-dire une crise exogène comme le coronavirus, ils se trouvent entièrement démunis et absolument incapables d'y faire face. Et donc, c'est pas pour autant que ces gens-là subitement se transforment en républicains ou vont aller manifester ou vont aller voter pour Joe Biden. Mais il y a quand même une forte hésitation et on le voit dans la chute de Donald Trump au sondage. Alors maintenant, ça ne présage encore une fois pas du résultat puisque on sait qu'aux États-Unis, il y a un taux de participation même à l'élection présidentielle qui est faible. Les gens ne votent pas ou ont des difficultés à voter, en grande particulier en temps de coronavirus. Il n'y a pas assez de bureaux de vote, il faut faire la queue pendant longtemps, il n'y aura pas forcément les bulletins de vote pour voter par correspondance. Tous ces aspects-là font que Donald Trump peut peut-être compter sur une sous-mobilisation du public en général et une sur-mobilisation de ses partisans et donc espérer l'emporter encore de cette manière. Ce n'est pas un scénario qui est impossible, mais c'est un scénario qui s'éloigne de plus en plus et à mesure que son incompétence est révélée à un public plus large.
Merci Célia Bellin. Je rappelle que vous avez écrit « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump », un livre publié chez Fayard, livre dans lequel vous mettez en exergue cette phrase d'Alexis de Tocqueville qui est vraiment d'actualité, qui disait ceci dans « De la démocratie en Amérique ». Le grand privilège des Américains n'est pas seulement d'être plus éclairés que d'autres, mais d'avoir la faculté de faire des fautes réparables. Nous le verrons.
Oui, nous verrons s'ils arrivent à réparer la faute.
Merci Célia Bellin. Une semaine d'actualité réalisée par Pauline Leduc. La semaine prochaine, c'est Éric Bataillon qui vous présentera l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idées. Comme depuis quelques semaines, nous accueillons deux invités avant de retrouver notre formule habituelle. Nous parlerons de la naissance de la notion de race, de racisme, avec une historienne, Aurélia Michel, qui vient d'écrire « Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial », où l'on comprend que c'est l'esclavage puis la colonisation qui ont en quelque sorte fait naître l'ordre racial. Et nous évoquerons également une page d'histoire de la France en revenant sur l'appel de Charles de Gaulle le 18 juin 1940 à Londres, dont on va commémorer dans quelques jours le 80e anniversaire. Nous serons avec Aurélie Luneau, qui vient d'écrire un livre précis sur ce moment. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.